En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, bonjour. Des centaines de Maliens ont manifesté mardi à Bamako leur soutien à la junte, en pleine querelle sur les conditions d'un retour des civils au pouvoir après le putsch du 18 août. Selon l'AFP, les participants ont répondu à l'appel du MP4, mouvement populaire du 4 septembre, nouvelle formation soutenant les colonels au pouvoir. Nous reviendrons sur le Mali avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré. En Guinée, le président sortant Alpha Condé et 9 autres hommes et femmes ont fait acte de candidature à la présidentielle du 18 octobre, et ce, dans un contexte tendu après des mois de mobilisation contre un troisième mandat de M. Condé. Ses partisans soutiennent que la nouvelle constitution adoptée en mars remet son compteur personnel à zéro et lui permet de se présenter, tandis que ses adversaires dénoncent un coup d'État constitutionnel. Au Sénégal, le président Macky Sall a défendu mardi soir sur la télévision publique son action face aux inondations et liées aux changements climatiques, les pluies diluviennes et dévastatrices qui ont fait 6 décès pendant le week-end dans son pays. Nous reviendrons sur ces inondations avec notre correspondant sur place, Serdina Abagay. Je ne suis pas un criminel, je n'ai fait que mon métier. Le journaliste algérien Khaled Drareni, condamné à 3 ans de prison ferme, a rejeté les accusations portées contre lui lors de son procès en appel mardi à Alger. Au Zimbabwe, le gouvernement a banni mardi toute exploitation minière dans les réserves naturelles, après que des avocats spécialistes du droit environnemental ont saisi la justice pour empêcher une société chinoise d'ouvrir une mine de charbon dans le plus grand parc protégé du pays, qui abrite plus de 45 000 éléphants et de nombreux animaux sauvages, dont des rhinocéros noirs. L'économie sud-africaine, déjà en récession, a connu un recul sans précédent en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Le pays le plus industrialisé du continent et le plus durement frappé par le coronavirus a vu son PIB s'effondrer de 51% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente. Le Nigeria, grand rival économique de l'Afrique du Sud, semble avoir un peu mieux résisté aux conséquences de la pandémie. Au deuxième trimestre de son économie, a reculé de 6,1% en rythme annualisé. Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a annoncé mardi avoir suspendu l'essai clinique de son vaccin contre le Covid-19 après qu'un des participants a contracté une infection inexpliquée. Notre processus de vérification standard a été déclenché et nous avons volontairement suspendu les vaccinations pour permettre à un comité indépendant de procéder à l'examen des données de sécurité, a déclaré la porte-parole du groupe. L'essai qui porte sur un vaccin développé par AstraZeneca en collaboration avec l'Université d'Oxford se déroule dans plusieurs pays dont le Royaume-Uni et les États-Unis. La pandémie a fait 900 000 morts dans le monde, dont un tiers en Amérique latine. Le convoi du premier vice-président afghan, Amrullah Saleh, a été visé par une attaque à la bombe dans le centre de Kaboul mercredi matin, ont déclaré des responsables gouvernementaux. Il est sain et sauf, mais au moins 2 personnes ont été tuées et 12 autres blessées. Selon un collaborateur du vice-président, qui a requis l'anonymat, un kamikaze s'est fait exploser près du convoi alors que M. Saleh se rendait à son bureau. Le président américain Donald Trump va annoncer bientôt le retrait de davantage de troupes d'Afghanistan et d'Irak, a indiqué mardi un haut responsable de son administration, selon ce dernier. Une annonce est prévue mercredi concernant l'Irak. La suite de nos informations, une délégation tchadienne menée par l'un des fils du président Idriss Déby Itno a rencontré mardi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour discuter de l'ouverture possible d'une ambassade du Tchad à Jérusalem. Le point avec Nanit Talani.
Hier à Jérusalem, une délégation menée par Abdelkerim Idriss Déby, l'un des fils du président tchadien et le chef du renseignement Ahmed Kogri, a rencontré Benjamin Netanyahou et le chef du Conseil national de sécurité, Mer Ben Shabbat. Nous avons discuté de la nomination des ambassadeurs et de l'ouverture de missions diplomatiques, y compris la possibilité d'ouvrir une ambassade à Jérusalem, a déclaré sur Twitter M. Netanyahou, dont les services ont aussi fait état des discussions à propos de terrorisme, de cybersécurité et d'agriculture. M. Netanyahou a annoncé la reprise de relations diplomatiques avec le Tchad en janvier 2019, après 47 ans d'interruption lors d'une visite à N'Djamena. Cette visite intervient moins d'un mois après l'annonce d'un accord entre Israël et les Émirats arabes unis, appelé à devenir le troisième pays arabe après l'Égypte et la Jordanie et le premier du Golfe à normaliser ses relations avec l'État hébreu.
Le président nigérian Muhammadu Buhari a demandé à ses homologues économiques des États d'Afrique de l'Ouest de résister à la tentation de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Abdourahman Dia.
En tant que membre de la CEDEAO, nous devons respecter les règles constitutionnelles de nos pays respectifs, en particulier en termes de limitation des mandats présidentiels, a lancé le chef de l'État nigérian lors du sommet de l'organisation lundi à Niamey. Parmi les participants à ce sommet figuraient les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et guinéens Alpha Condé, qui vont tous deux briguer un troisième mandat en octobre prochain. La sous-région fait face à d'énormes défis, qu'il s'agisse de la situation socio-économique ou des questions de sécurité. La CEDEAO ne peut pas se permettre une autre crise politique liée à une prolongation de mandat, a estimé M. Buhari. Je demande à tous de résister à la tentation de se maintenir au pouvoir au-delà des limites constitutionnelles, a-t-il dit. Arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire dans les années 80, M. Buhari, un ancien général de 77 ans, a été élu en 2015 et réélu en 2019. Il s'est engagé à quitter le pouvoir au terme de son second mandat. Tout comme l'hôte de ce sommet, le Nigérien Muhammadu Issoufou, qui termine ses deux mandats cette année et qui a refusé de se représenter.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump visite 5 États clés cette semaine, à commencer par la Floride et la Caroline du Nord mardi. Plus que quelques semaines avant le 3 novembre, donc la campagne s'accélère, Eric Manirakidza.
Les voyages du président Donald Trump hier en Floride et en Caroline du Nord seront suivis de visites au Michigan demain et au Nevada le week-end. Les deux candidats, Trump et Biden, seront tous les deux en Pennsylvanie vendredi pour les commémorations du 11 septembre 2001. Des passagers ont payé de leur vie ce jour-là après avoir résisté aux pirates de l'air. Leur avion s'est écrasé dans un champ près de Shanksville. Joe Biden, qui se trouvait en Pennsylvanie le lundi de la fête du travail, sera au Michigan aujourd'hui. Sa colistière, Kamala Harris, va en Floride et sa femme Jill Biden sera dans le Minnesota, un état que Trump fait tout son possible pour le ramener à ses côtés le 3 novembre. Pour le moment, les sondages sont en faveur de Biden. Trump l'accuse d'être une marionnette des gauchistes et dit que les manifestations antiracistes, parfois violentes, sont un signe avant-coureur du chaos dans les villes dirigées par les démocrates. M. Trump espère que les promesses d'un vaccin rapide contre le coronavirus et la reprise économique vont aussi jouer en sa faveur.
Minute Éco, Nanit Talani.
En Tunisie, la production des sites pétroliers dans le sud est toujours à l'arrêt près de 2 mois après son blocage par des habitants réclamant des emplois. Les compagnies pétrolières menacent de fermer leurs sites et évacuer leurs employés, soulignant le risque de licenciement de milliers de travailleurs. Selon le ministère de l'Énergie, le pays perd chaque jour environ 40% de sa production de gaz et la moitié de sa production de pétrole. La Tunisie produit en moyenne 40 000 barils de brut par jour, dont 55% viennent de la région de Tataouine située dans le sud. Au Gabon, l'accès à l'électricité de 40 000 ménages s'améliorera grâce au projet de réhabilitation et de construction de 750 km de lignes électriques entrepris par le gouvernement. L'agence Ecofin souligne que le projet concernera les lignes basse et moyenne tension sur les axes Kango, Bifoum, Lombarene, Fugamu, Mouila et Oyem, Bitam, Okok, Batouri et prendra en compte 150 villages. Ce projet d'extension du réseau électrique permettra également l'ajout de 17 MW de capacité. Pour terminer, la Sodé Coton, la société de développement du coton du Cameroun, devrait clôturer la campagne cotonnière 2019-2020 avec une perte de 5,6 milliards de francs CFA, exacerbée par la chute brutale et continue des cours mondiaux du coton d'une part et un taux de rendement de ses usines de transformation de seulement 42% en 2020 d'autre part. Toutefois, l'entreprise parapublique camerounaise, qui encadre plus de 250 000 producteurs dans le nord du pays, ambitionne toujours de produire 600 000 tonnes dès 2025.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous, athlétisme. Pour commencer, la Sud-Africaine Casper Semenya a perdu une bataille dans son long combat. La justice suisse a confirmé que l'athlète hyperandrogène doit prendre un traitement hormonal pour concourir sur sa distance fétiche de 800 mètres. La sportive de 29 ans, dont le bras de fer avec la Fédération internationale d'athlétisme dure depuis plus de 10 ans, a annoncé qu'elle envisage tous les recours internationaux et nationaux. Je suis très déçu par cet arrêt, mais je refuse de laisser World Athletics me droguer ou m'empêcher d'être qui je suis, a réagi l'athlète dans un communiqué. La fédération a défini en avril 2018 un seuil maximal de testostérone pour concourir avec les femmes sur des distances allant du 400 mètres au 1000. Les femmes présentant un excès naturel d'hormones sexuelles mâles doivent faire baisser leur taux de testostérone par un traitement pour s'aligner sur les épreuves internationales. Mais Caster Semenya voit dans ce règlement une discrimination ainsi qu'une violation de sa dignité humaine. Football, Cristiano Ronaldo a inscrit hier son 100e but avec le maillot du Portugal contre la Suède en Ligue des Nations à Solna. À 35 ans, le quintuple ballon d'or et attaquant vedette de la Juventus Turin a marqué le but du 1-0 sur un coup franc sanctionnant une faute de Svensson à la 45e minute de jeu. Avant la rencontre avec la Suède, Cristiano Ronaldo n'avait pas rejoué depuis août et l'élimination de la Juventus Turin par l'Olympique Lyonnais en 8e de finale de la Ligue des Champions. Atteint d'une infection au pied droit, la star de la Juventus de Turin avait dû déclarer forfait pour le match de samedi passé face à la Croatie lors de la première journée que le Portugal a remporté 4-1 malgré l'absence de son capitaine. Tennis avec des nouvelles de l'US Open, Novak Djokovic a exhorté ses fans à soutenir et prendre soin de la juge de ligne frappée par le jet d'une balle qui a entraîné l'élimination dimanche du Serbe du tournoi new-yorkais. L'arbitre a été la cible d'attaques sur les réseaux sociaux. Dans un tweet, le numéro 1 mondial a remercié ses fans pour les messages positifs, tout en soulignant que la juge, touchée à la gorge après le geste de mauvaise humeur du Serbe, n'a rien fait de mal, contrairement aux critiques accusant l'officiel d'avoir exagéré la nature de sa blessure en s'effondrant à terre. Le Serbe de 33 ans a été disqualifié en raison de cet incident, intervenu lors de son 8e de finale contre l'Espagnol Pablo Carreño Busta.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
aujourd'hui VOA Afrique en votre compagnie Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, la CDAO demande aux militaires au pouvoir à Bamako de désigner d'ici au 15 septembre un président et un premier ministre civil de transition. Cette décision de l'organisation sous-régionale intervient alors que le pays est sous embargo. Certains Bamakois estiment que les militaires doivent attendre la concertation nationale du 10 au 12 septembre avant de répondre à cette exigence. Notre correspondant dans la capitale malienne, Kassim Traoré.
Dans la capitale malienne, le débat était focalisé autour de la transition. Le choix d'un militaire défendu par les uns et celui d'un civil par les autres. La décision de la CDAO ne semble pas être du goût de certains Maliens. Nounsar, membre du M5-RFP.
Nous pensons que la CDAO est dans son rôle. Elle veut se prémunir contre ce qui est arrivé au Mali. Et nous estimons qu'elle doit quand même être très regardante vis-à-vis de la situation du peuple malien, des conditions difficiles que le peuple malien traverse aujourd'hui. Donc nous appelons la CDAO à plus de retenue. Le peuple malien saura trouver les voies pour sortir de cette crise et pour faire en sorte que nous ayons une transition apaisée et acceptée de tous.
Dans l'administration publique malienne, on croit que la CDAO ne tient pas compte des réalités maliennes. Traoré Dado Camara, citoyenne.
On a l'impression que les chefs d'État de la CDAO prennent les décisions sans vraiment se rendre compte ou de prendre l'avis de la population. À la base, toutes leurs décisions, je crois bien que ça a une conséquence directe sur la population à la base. Donc, avant de prendre une décision, ils doivent d'abord vraiment s'enquérir des informations au niveau du pays, voir comment la population en passe avant de prendre une décision.
Le délai donné par la CDAO aux militaires de désigner d'ici le 15 septembre prochain n'est pas une décision tenable, selon l'administrateur social Salif Bengali.
Je pense que la CDAO va très loin parce que les concertations ont été lancées le week-end dernier, notamment avec la première phase qui constitue la validation des termes de référence. Donc, en fin de cette semaine, auront lieu les concertations prévues. Donc, la CDAO devrait attendre à ce qu'on finisse avec cette phase. Bon, en cette phase-là, on ne devrait même pas mettre de pression sur le peuple malien parce que tout ce que la CDAO entreprend jusqu'ici, c'est contre le peuple.
Très remonté contre la CDAO, le vieux Moussa Bana Bagaga, enseignant à la retraite, nous donne son avis.
Ils auraient pu éviter au peuple ce que nous sommes en train de subir. Ils n'ont pas fait un travail. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation, le peuple a renversé les citoyens maliens. Nous mettons les gens que nous voulons. Nous ne sommes les dictats de la finance, ça c'est leur affaire. Nous, Maliens, de façon souveraine, de façon concertée, nous mettons les organes de la transition conformément à nos convictions intimes et profondes, conformément à nos valeurs morales ici. Personne de l'extérieur ne viendra nous opposer quoi que ce soit.
Le Mali doit faire recours à ses valeurs sociétales, mais surtout revisiter son passé. C'est du moins l'avis de l'écrivain et journaliste à la retraite Daouda Tekete.
Nous avons eu tout faux de croire que c'est en nous ouvrant aux autres essentiellement que la sécurité, l'éducation, la santé de notre pays dépend de l'apport de l'extérieur. Aussi longtemps que nous avons pensé comme ça, nos problèmes ne feront que s'aggraver. Or, avant 1968, la première république qui a existé sous la direction du président Modibo Keïta, tout avait été conçu et était organisé et était mis en œuvre d'abord en comptant et surtout sur nous-mêmes, en puisant notre force dans notre histoire authentique, en sachant que nous sommes héritiers d'empire.
Pour certains observateurs, désigner un président et un premier ministre de la transition n'est pas chose aisée, car en temps normal, la désignation des personnalités pour des postes de responsabilité peut prendre beaucoup plus de temps que les délais donnés par la CDAO. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, durcissement des positions entre le gouvernement et certaines formations politiques au sujet de l'élection des conseillers régionaux prévue le 6 décembre prochain. L'opposition, sous la houlette de Maurice Kamto, a prévenu d'organiser des manifestations contre ce scrutin jugé inopportun dans un contexte de conflit dans les régions anglophones. Les pouvoirs publics ont promis de sévir en cas de trouble à l'ordre public. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jules Tap.
Quelques heures après la convocation par décret présidentiel des corps électoraux devant élire les conseillers régionaux, Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, a été le premier à monter au créneau au cours d'une conférence de presse nocturne. Il a fermement averti les leaders de l'opposition contre toute forme de trouble à l'ordre public.
Je saisis donc cette occasion pour lancer une sévère mise en garde aux politiciens sans scrupules contre tout agenda visant à perturber la tranquillité des Camerounais avant, pendant et après l'élection des conseillers régionaux. Tous les porteurs de troubles, quels qu'ils soient, répondront de leurs actes devant les instances judiciaires.
Mais à travers les réseaux sociaux, Olivier Biboun-Missak, porte-parole de Maurice Kamto, a annoncé dès le 22 septembre prochain un mouvement baptisé Cameroun Revolution. Paul Biya doit partir. Ce mouvement s'insurge contre la tenue du scrutin du 6 décembre prochain, sans résolution définitive de la crise anglophone et une réforme consensuelle du code électoral. Professeur Maurice Kamto, président du MRC.
Nous voulons nous sortir de la dictature du régime qui étouffe notre pays par la lutte pacifique dans cette lutte décisive. La violence ne pourrait donc être que le fait de M. Paul Biya et de son régime, et ils en porteraient l'entière responsabilité. Tenez-vous prêts, nous ne devons plus accepter d'être l'objet des moqueries des autres Africains. Si l'heure est arrivée, alors elle est arrivée.
L'opinion publique est partagée sur cette montée de tension entre le gouvernement et certains responsables de l'opposition sur les conseils régionaux. Paul Tagny est militant du Social Democratic Front, le SDF, l'un des partis d'opposition qui a appelé au boycott.
Normalement, on devrait annuler ces élections. La constitution de 96 qui prévoyait que des chefs traditionnels devaient aussi participer, vu la guerre qui se passe à l'extrême nord du Cameroun, dans les deux zones anglophones, et que ces choses sont éparpillées dans toute la République, de qui iront voter, par exemple le cas des deux régions anglophones. Aucun chef traditionnel sur les lieux, tous les maires et les députés élus là-bas sont dédiés hors de leur bastion.
Élisée Bayebek est chef d'entreprise à Yaoundé. Il prend le contre-pied des initiateurs de manifestations contre un organe prévu depuis 1996 dans la Constitution.
Ce n'est pas une bande d'individus qui veulent prendre un pays en otage pour leurs ambitions personnelles. Attendez, il faut arrêter tout ça. On ne parlait plus de MRCA, DICO, et ça va être... Ils sont plus importants que moi. Il y a beaucoup de Camerounais comme moi. Nous pensons que nous pouvons faire tenir cette élection.
Depuis hier, le dispositif de sécurité a été renforcé à différents points stratégiques de Yaoundé, la capitale. Les policiers et gendarmes scrutent le moindre rassemblement. Le gouvernement a avisé que tout manifestant interpellé risque la condamnation à vie. À travers les conseils régionaux, le gouvernement entend transférer certaines compétences et doter les deux régions anglophones d'un statut particulier. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Avec vous, cette semaine dans Washington Forum, les inondations frappant plusieurs villes africaines cette année. De Dakar à Douala, en passant par Niamey, Abidjan, Kinshasa et N'Djamena, les eaux pluviales ont causé des dégâts importants et fait des morts, laissant des populations en désarroi. Les experts mettent en cause les effets combinés du changement climatique et d'une urbanisation galopante et mal planifiée des villes africaines. Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 10 septembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.org.
Dakar et plusieurs régions du Sénégal sont sous les eaux après un week-end de fortes pluies quasi ininterrompues qui ont causé la mort de 6 personnes. Des jeunes ont manifesté leur colère dans plusieurs localités de la capitale. Le président Macky Sall a annoncé l'organisation de secours sans vraiment réussir à calmer les populations. Nous y revenons avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Comme ça, Djehaï, passe la CENI, rond-point Case, Cambérine. Les jeunes ont investi les rues sous la forte pluie pour bloquer la circulation et dénoncer les inondations interminables qu'ils vivent à chaque hivernage. L'intervention des forces de l'ordre ne fera qu'augmenter la grogne des populations. Pablaï, habitant de Cambérine. Cambérine est l'un des endroits les plus touchés par les inondations. Nous sommes tellement fatigués et très affectés par cette situation. Malheureusement, on n'a plus d'endroit où dormir. Des gens ont perdu la vie et le gouvernement ne montre aucune volonté. Si l'État avait fait son devoir, on n'en serait pas à ce niveau. Quand on a entendu le ministre de l'Intérieur parler du plan Orsec, on s'est rendu compte qu'il voulait trouver une justification à ce désastre. C'est juste de la politique, mais ils ne peuvent plus berner les victimes. Victime collatérale de la pluie et de la furie des manifestants, les usagers de la voie de dégagement nord ont été bloqués pendant des heures dans la circulation. Pour Pabounamodjo, l'État est le seul responsable de cette situation désastreuse.
Ils ont stoppé toutes les voitures et nous ont bloqués dans les eaux pendant deux heures de temps. Je pense que chacun a le droit de manifester sa colère, mais il y a des pots parce que les gens ne doivent pas payer. Moi, vu ce que j'ai vu, que l'État n'a pas fait son travail, parce que comment tu peux faire des routes nationales et des VTN et tu ne peux pas canaliser les eaux normalement?
L'État affirme avoir injecté 750 milliards de francs CFA pour régler le problème des inondations, mais cette version est contredite par les populations qui disent n'avoir constaté aucune évolution. Sous couvert de l'anonymat, ce jeune habitant des parcelles assainies ne cache pas son désarroi.
Oh, nous, on ne comprend pas parce qu'on ne peut pas admettre vivre cette situation depuis presque plus de 20 ans. Nous, depuis qu'on est petit, on vit la même chose. Chaque année, l'État nous promet de changer beaucoup de choses alors qu'ils ne le font pas. C'est vraiment désolant, mais on n'y peut rien. On ne nous donne pas d'autres lieux où on peut habiter. On est obligé de continuer à vivre ici. Du coup, on est vraiment dans la misère et on ne voit personne pour nous aider.
En visite dans la banlieue de Dakar pour s'enquérir de la situation, le ministre de l'Intérieur, Alingo Ndiaye, a annoncé que le budget pour l'organisation des secours est en cours d'évaluation.
C'est après avoir reçu les rapports de tous les gouverneurs que nous avons tenu une rencontre au ministère de l'Intérieur avec les techniciens qui doivent aujourd'hui évaluer le budget nécessaire pour qu'on puisse lancer le plan Orsec tel que demandé par le chef de l'État. Mais en attendant de finaliser ce chiffrage du plan, nous avons déjà fait des opérations.
En attendant l'apport du plan Orsec annoncé par le président Macky Sall, les conséquences causées par les fortes pluies du week-end se sont déjà fait sentir avec des eaux qui ont coupé des axes routiers importants dans plusieurs localités du pays. À Dakar, la Société nationale des transports Dakar Dembic a d'ailleurs annoncé la suspension des bus qui assurent la desserte en banlieue. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Pas évident d'organiser des cérémonies de mariage en pleine période de pandémie de coronavirus. Certains couples initiés au numérique trouvent des solutions de contournement virtuel pour se présenter à l'hôtel, y compris dans les cas où les mariés sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Anita Paul de la VOA s'est entretenue avec un couple africain qui a renforcé son lien d'amour à distance. Le récit est d'Arzuma Compaoré.
Voici la mariée. Et ici, de l'autre côté du continent, se trouve le marié. Fifi et Emmanuel Egbegou se sont mariés le mois dernier. Elle dansait le long de l'allée dans l'état d'Enugu, dans le sud-est du Nigeria. Et lui, l'a regardait en ligne de Johannesburg, le centre économique de l'Afrique du Sud, où il travaille comme musicien. Fifi Egbegou, entrepreneuse dans l'industrie de la beauté.
Ce jour-là, il était en ligne et nous parlions à chaque seconde. En fait, je sentais qu'il était avec moi. Vraiment. Juste qu'il n'était pas là. Présent, tu sais. Je suis sûre que les gens vont se demander pourquoi cette fille danse-t-elle, rit-elle et s'amuse-t-elle.
Avec les restrictions de voyage liées au Covid-19, les mariages virtuels sont de plus en plus courants. Mais même ceux qui ne sont pas ensemble ne peuvent pas célébrer de manière traditionnelle en raison des restrictions sur les grandes foules. Molebo Beng, Gulwako, fournisseuse d'accessoires événementiels. Cela va prendre beaucoup de temps parce que, rappelez-vous, nous avons aussi grandi dans de grandes familles. Donc ce sera très difficile de désapprendre de célébrer par nous-mêmes. Les Egbegou ne voulaient pas attendre pour déclarer leur amour et leur engagement. Emmanuel Egbegou, musicien. Je me sentais mal de ne pas pouvoir y être en personne. En même temps, quand je l'ai vu danser, cela m'a fait sourire. De la voir heureuse, cela m'a en quelque sorte donné la confiance dont j'avais besoin. Donc, au moins, c'est quelque chose à retenir. Les Egbegou prévoient de se retrouver en Afrique du Sud lorsque les vols reprendront. En attendant, ils se prennent comme mari et femme et s'y accrochent virtuellement.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph à la mise en bande. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.